Brume 90.7, nouvel entretien Confluence Cinéma. Nous sommes le mercredi
9 avril.
9 avril, merci Raphaël qui est avec nous dans les studios. Et pour la deuxième partie, nous aurons bien sûr notre cher Hakim qui nous rejoindra. Mais dans un premier temps, tu vas nous parler de deux films que tu as vus cette semaine.
Ouais, deux films français qui sont quand même plus ou moins des teen movies pour le coup. Hein. J'aimerais vous parler de Situation amoureuse, c'est compliqué, hein, qui est sorti je crois il y a 15 jours, 3 semaines. Hein. Déjà, qui est un film de Manu Payet, hein, c'est son premier film en tant que metteur en scène. Donc Manu Payet, c'est un comédien, vous connaissez mes goûts, hein, de stand-up à la base, hein, un peu issu de la génération Jamel Comedy Club. Hein, et on l'avait un peu repéré au cinéma grâce à un très bon film qui s'appelait Radio Days, hein, de Manu Lévy, hein, que Lévy avait écrit et réalisé, hein, et dans lequel Payet jouait. Et là, le duo se reforme, hein, pour une mise en scène de Manu Payet. Hein, c'est une histoire d'amour, hein, une comédie romantique. Hein. C'est l'histoire de Ben, interprété par Manu Payet, et qui est un grand enfant, on pourrait dire, hein, un adulte qui a refusé de grandir. Hein, donc on voit son appartement sans dessus-dessous, il bouffe des Kellogg's, etc. etc. Hein, et il a une petite copine et ils vont se marier très bientôt. Donc on voit un peu leur relation, les liens aussi avec le beau-père qui est assez drôle. Hein. C'est un acteur des ch'tis, j'ai oublié son nom, mais bon, c'est pas très grave pour une fois, il est très bien utilisé. Et le problème, c'est qu'il est, il va tomber sur une ancienne collègue à lui d'école, en fait, une camarade de classe dont il est amoureux au lycée. Hein. Et tout de suite, il va retomber dans ses travers, il va vouloir la séduire de nouveau alors qu'il est marié et retomber finalement en enfance une fois de plus à travers cette femme. Et ses potes, en plus, vont l'aider à la draguer et à sortir avec elle.
Scénario assez classique finalement, quoi, ouais, cette histoire de teen l'homme movie, marié, ouais, qui retrouve une ancienne connaissance. Ouais.
Mais du coup, ça, pour le coup, ça c'est universel, puisqu'on a tous eu, je pense, au lycée, le fantasme d'une fille ou d'un garçon, hein, qu'on a tous connu et qui ne s'intéressait pas du tout à nous, quoi. Et là-dessus, c'est assez bien vu, je trouve, c'est assez moderne, et tout en étant référentiel quand même, puisque on sent que Manu Payet adore toute cette... tradition de teen movie, donc il cite un peu des trucs qu'il a vus, et surtout c'est un film très générationnel, c'est sur les trentenaires, donc on parle du grand bleu, de Luc Besson, il y a des références à Die Hard, à droite à gauche, qui sont vraiment très très drôles. Bon, la mise en scène, c'est un premier film, elle brille pas encore par son intelligence. Hein.
Le casting est intéressant.
Ouais, il y a des bons acteurs, des jeunes acteurs que je connaissais pas, notamment Jean-Christophe Kéré, je crois que c'est Jean-Christophe, qui est un comédien de stand-up que je ne connaissais pas, et qui est vraiment très drôle, avec une sorte de phrasé à la Bourville qu'on n'entendait plus depuis des années, qui est vraiment dans un humour à l'américaine, c'est-à-dire bourré un peu de situations graveleuses dans sa bouche, mais avec une certaine tendresse quand même à la française, quoi. Et je trouve que tout ça, c'est assez bien emmené, c'est assez enjoué, c'est une belle comédie romantique pour le printemps, quoi. On a envie de tomber amoureux, un peu comme Heure qu'on avait chroniqué dernièrement.
Il y a des surprises un petit peu quand même à la fin, ou
c'est le coup classique, voilà. C'est les comédies romantiques, donc voilà, ils n'ont rien en commun, ils vont s'aimer, ils vont se séparer, ils vont se retrouver.
Okay.
Voilà, le pur. Voilà. Et le film a eu quand même de bons échos, puisqu'il est reparti avec le grand prix du jury au dernier festival de l'Alpe d'Huez.
D'accord.
Et ça laisse présager, je trouve, pour Manu Payet, qui est pour moi peut-être le comique le plus drôle de sa génération à l'heure actuelle, hein, dans les trentenaires, une belle carrière. Je pense qu'on pourra compter sur lui dans les prochaines grandes comédies françaises.
D'accord. Alors, le second film que tu as vu a été nettement moins intéressant.
Alors, nous sommes dans le même registre, le teen movie. Et c'est un genre que j'adore. On a fait la comédie américaine il n'y a pas longtemps avec Hakim. C'est un peu un cousin éloigné, la teen movie. Hein. Et c'est donc le registre qu'a décidé Kim Chapiron, hein, pour revenir. Donc, Kim Chapiron, c'est le metteur en scène de Shaitan en 2005 et de Dog Pound en 2009. Shaitan, pour simplifier, c'est une grosse merde. Dog Pound était un bon film, et là il nous revient avec ce teen movie, La Crème de la Crème, hein, qui est donc l'histoire de trois post-adolescents, hein, qui font des hautes études de commerce et qui vont décider, en se croyant bien malin, de monter un business de prostitution. C'est-à-dire qu'ils vont offrir les services à des garçons un peu gauches, un peu puceaux, un peu losers, un peu populaires, les services de jeunes filles très très belles pour qu'eux-mêmes à leur tour puissent coucher et avoir plein de filles à travers le film. Donc, à travers ce pitch, on va dire, comment on pourrait dire, déjà bien misogyne sur le papier, hein, puisque les femmes ne sont finalement que, dans le film, des produits ou des putes, hein, c'est exactement le terme du film, hein, et qui servent bien évidemment la cause à des garçons riches, hein, puisque dans le film, on ne verra jamais, sauf pour s'en moquer, de noirs ou d'arabes, ou s'il y a des juifs. Mais les juifs, dans le film, ont de l'argent, beaucoup d'argent, c'est des fils à papa. Donc vous comprenez tout de suite.
Vraiment très stéréotypé.
Exactement, c'est bourré de clichés. C'est vraiment une France, on pourrait dire, sarkozyste, hein, on pourrait bien le dire, puisque dans le film, il y a une magnifique scène de séduction ridicule sur Carla Bruni, sur quelqu'un qui m'a dit. Donc quand on voit ça, on est plié en deux dans le mauvais sens du terme, hein, et le film se repose sur des fausses bonnes idées qui se croient intelligentes en plus. Par exemple, il parle de cette idée de faire coucher les belles filles avec les losers dans un supermarché, tu vois, pour te parler de la loi du marché. Oh là là, c'est super intelligent comme idée de mise en scène, hein, tu vois. Et surtout, le film se croit très nouveau, très frais, très original, alors que tous les teen movies ont déjà fait ça. Par exemple, ça se croit drôle, alors que Supergrave et Les Sous-doués, il y a 30 ans, faisaient déjà des films drôles. Ça se croit original et cool, alors que Risky Business avec Tom Cruise, il y a aussi 30 ans, le faisait déjà. Ça se croit témoin d'une génération à l'heure actuelle, alors que déjà des films comme La Boom, le faisait déjà en 80. Ça se croit un peu touchant vers la fin, comme l'avait fait John Hughes, pareil, dans les années 80. Ça se croit subversif, ou choquant, parce que voilà, c'est un coup de prostitution, alors que Larry Clark ou Armory Corrine font des teen movies, voilà, super trash. Et surtout, ça se croit intelligent comme un film que j'adore, hein, qui est Social Network de David Fincher. On sent qu'il a pompé tout le film de Fincher, mais de travers. Et d'ailleurs, dans le film, il s'en cache même pas, hein. Il y a une réplique qui dit « Ah, tu te prends pour Zuckerberg », tu vois. Donc, donc c'est vraiment...
Après, moi, bien sûr, j'ai pas vu le film et ça me donne pas envie de y aller. Je comprends bien ce que tu veux dire, mais du coup, peut-être que ça s'adresse justement à un certain public, tu vois, qui cherche ce genre de truc un peu réac, con-con... c'est peut-être aussi voulu, en fait, ce truc-là.
Je t'avoue, j'ai pensé au moment, mais il n'y a pas ce second degré, justement, sur le propos du film qui pourrait condamner, justement, les propos et les dires et les actions des personnages dans le film, quoi. Voilà, comme je t'ai dit, c'est la France blanche, la France qui est riche.
Non, mais ça se trouve, le mec a voulu faire un film pour ces gens-là, enfin, tu vois, pour un public
là-dessus,
un peu
là-dessus, je comprends.
Tu vois ce que je veux dire,
quoi. Oui, parce que je connais des pseudo-cinéphiles qui ont aimé ce film, qui n'ont aucune connaissance, justement, dans le genre du teen movie et qui prennent ça, justement, comme un grand film, comme un chef-d'œuvre. Justement parce que c'est transgressif, etc., alors que c'est faussement intelligent, c'est faussement provocateur, etc., etc. C'est juste poseur, c'est juste chiant et c'est juste cynique du début à la fin, quoi. Alors la crème de la crème, moi je vous dirais que c'est la merde de la merde, surtout, hein. Et si vous aimez les teen movies, et je vais en dire un français qui était vraiment excellent pour le coup, c'était Les Beaux Gosses, hein, de Riyad Sattouf, qui était présent,
très bon, hein.
C'était très très bon, et ça montrait vraiment les rapports, voilà, amoureux vraiment de tous les ados, hein. C'était pas des gens riches, etc., c'est vraiment des ados d'aujourd'hui et leurs relations, hein. Et si vous voulez un film, on va dire, plus transgressif, voilà, où on voit des putes, de la coke, etc., allez plutôt voir Le Loup de Wall Street de Scorsese, quoi, parce qu'on est un peu dans le même cas.
Spring Break, quoi, tu vois.
Ah oui, mais Spring Break, là, pour le coup, là, c'est vraiment le film, entre guillemets, choquant, trash, vraiment d'auteur, avec un vrai propos, avec un vrai regard sur cette Amérique-là, tu vois. Alors que là, non, c'est simplement des étudiants qui chantent Michel Sardou, tu vois. Les lacs du Connemara, au début, dans une scène, on dirait La Boum, il y a 40 ans, tu vois. Et ça se croit drôle, ça se croit intelligent, ça se croit, voilà. Moi, ça m'a énervé profondément, puisque j'adore le teen movie, vraiment. C'est un genre que je trouve vraiment génial, qui permet, voilà, d'aller dans tous les sens. On peut parler de Larry Clark ou de John Hughes, mais là, il n'y a rien. C'est juste vide, et ça se la pète, et ça va marcher de toute façon auprès des bobos qui ont aucune culture cinéphilique.
D'accord. Bon, bah c'était le coup de gueule de la journée, de la soirée.
Je l'ai fait vite, mais l'arme est là. Hein. Voilà.
Et ben, on écoute un premier morceau de musique et on se retrouve ensuite avec Hakim pour parler du film Noé.
Après le vice, la vertu.
Feeling me, I'm telling you that
Deuxième partie de cet entretien Confluence, nous avons le plaisir de recevoir Hakim.
Oui, je m'excuse, j'ai un petit peu la voix enrouée parce que j'ai fait un pari hier soir et j'ai couru nu place Bellecourt suite à la victoire de Chelsea face à PSG.
D'accord.
Donc voilà, mais je reviens tout juste de la projection de Noé, de Darren Aronofsky, dont nous allons parler maintenant avec Raphaël.
Alors, qui nous fait un petit peu le résumé?
Alors, ça va être Raphaël parce que je vais le dire très clairement, je me suis longuement assoupi dès les premières minutes.
Mais le début raconte tout.
J'ai vu le jeu, et bah, y a des petits cartons avec une police très enfantine. Même le générique de fin, il fait très conte pour enfants. Et j'ai un souvenir de chiffres, de lettres, d'images, d'étoiles. Bref, je n'ai pas trop bien capté. Je ne suis pas un grand lecteur de la Bible. Je connais vaguement l'histoire, l'épopée de Noé. Et je vais dire ce que j'en pense. Mais d'abord, je vais te laisser
Avant de faire le pitch, j'aimerais juste te dire, pour faire la transition avec la merde de la merde, après le vice et la luxure, nous avons la vertu. Comme quoi, on a une émission quand même assez calée, quand même. Voilà, on parle un peu de tout. On parle de la Bible, de la religion, finalement. Aronofsky nous revient donc avec ce dernier film, Noé. Son dernier film, c'était Black Swan en 2010, qui avait figuré, je crois, dans le numéro 1 de notre top à l'époque à la radio.
Je ne pense pas, parce que j'avais été le seul à le mettre dans mon flop.
Mais je crois qu'il avait fini ou deuxième, je ne sais pas.
Ouais, donc à cause de moi, ça avait court-circuité, il s'est retrouvé que deuxième au lieu du...
Donc Aronofsky, bon, on aimait bien, moi j'aime bien, je ne suis pas un fan ultime de ce metteur en scène. Et donc il nous revient, après plein de projets avortés, il devait faire Robocop finalement, et ce n'est pas lui qui a fait le remake. Il devait faire The Wolverine aussi, la suite des aventures de Hugh Jackman. Et là, il nous revient donc avec une fresque biblique adaptée de sa propre bande dessinée qui s'appelait Noah, hein, qui est un comic book. À la base, c'était un scénario de film. Il n'a pas réussi à trouver les financements. Il l'a fait en bande dessinée et là, il a pu l'adapter en film avec Russell Crowe dans le rôle de Noé. Le film raconte donc la genèse au début du film. Hein, donc les cartons qu'a raté Hakim nous racontent en fait le Jardin d'Éden. Dieu crée Adam et Ève. Le serpent arrive. Ève mange la pomme. Voilà, donc les hommes sont chassés du paradis. À partir de là, on voit les enfants de Adam et Ève, Abel, Cain et Seth. Cain tue Abel et va fonder par la suite une société corrompue où l'homme ne pense qu'à régner, qu'à l'argent, qu'à la luxure, qu'à la débauche, etc.
Mais c'est du James Ellroy, ça.
Oui. tandis que les héritiers de Seth vont donc, dont Noé et Mathusalem, vont partir un petit peu en nomade, hein, et vivre dans la vertu face à l'amour de Dieu. Et Noé, qui est l'héritier de Seth, va avoir un rêve, une prédiction de Dieu qui va lui annoncer que la fin est proche, l'apocalypse va arriver, va nettoyer, purifier la race humaine à travers un déluge qui va durer donc 40 jours à 40 nuits. Et à partir de là, Noé va tomber, on pourrait dire, dans l'obsession. Hein, c'est un terme que j'utilise vraiment avec
jusqu'à se transformer en barbe bleue.
Voilà, avec justesse, hein, parce que c'est vraiment un thème d'Aronofsky, j'y reviendrai après. Hein, et voilà, quoi. Alors moi, le film... Le début, j'étais très décontenancé justement parce que tu disais pour le côté un peu enfantin.
Ouais, c'est vrai, c'est un conte pour enfants.
Même les effets spéciaux au début qui sont un peu cheapos.
Bah, ouais, il y a cette immense de pierre que j'ai bien aimé parce que ça m'a rappelé. Alors, je sais pas comment ils ont animé ça, mais l'animation mécanique m'a rappelé les effets visuels des monstres de Rhea et Rosanna.
Ouais, je pense qu'il y a de ça, ouais. Et même pour le dire après, on va tomber directement dans le Seigneur des Anneaux. Hein. Toute la partie heroic fantasy, entre guillemets.
Bah, c'est une séquence de prise de. La prise du fort, mais la prise de l'arbre de Noé.
C'est la fin des deux tours, mais en version biblique. Quoi.
Voilà.
Et donc, voilà, le début m'a décontenancé pour les raisons que tu as évoquées, les effets spéciaux, le design des personnages qui était intéressant, mais je me suis dit, mais par rapport à la Bible, c'est un peu bizarre tout ça. Et progressivement, le film va basculer dans sa première partie, hein, dans un blockbuster biblique avec beaucoup d'effets spéciaux, un climax qui va arriver au milieu du film à peu près, qu'on attend évidemment, qui est le déluge, hein, avec une prise de Ray Winston qui est l'héritier en fait des hommes corrompus et qui vivent dans le vice, hein, et qui veut prendre en fait d'assaut l'arche de Noé. Hein. Et donc ça, c'est expédié vraiment assez rapidement. La séquence, elle dure quoi? C'est peut-être 5 minutes, 10 minutes maxi. Hein, alors qu'on pouvait s'attendre justement à ça. Hein,
par rapport le film fait 2h18.
Hein, voilà, par rapport au côté biblique. Et à partir de là, j'ai retrouvé l'Aronofsky que je connaissais. La deuxième partie du film va s'intéresser sur un parcours intimiste de Noé. Hein. On va le suivre comme ça dans l'arche. Et il va basculer progressivement dans la folie, hein, dans l'obsession de sa mission d'être guidé par Dieu. Et en ça, c'est purement aronofskien, on pourrait dire, hein, puisqu'on retrouve ça dans tous ses films. La mission, le but à suivre et l'obsession. Nathalie Portman, elle tombe dans la folie car elle veut être parfaite en danse. Comment il s'appelle ? Mickey Rourke dans The Wrestler va jusqu'à mourir pour le catch. Pi, c'était justement un homme qui était obsédé par le nombre Pi. Requiem for a Dream, c'est l'obsession pour la drogue, etc. Ou même The Fountain aussi, l'obsession pour l'amour qui va guider un personnage jusqu'à, pareil, dans la folie et compagnie, quoi. Donc c'est vraiment là, on retrouve le grand Aronofsky, et je trouve ça assez culotté d'avoir à la fois le côté blockbuster dans la première partie et le côté intimiste qui m'a beaucoup plu, le côté familial dans la seconde partie.
Bon, moi j'y suis allé en reculant parce que je ne suis pas du tout fan de Aronofsky, hein. J'étais grandement fan de son deuxième film, Requiem for a Dream, qui a marqué toute une génération. Je pense qu'il y a 10 ans, quand on était au lycée, je pense qu'on a tous vu Requiem for a Dream.
C'est quand même très moraliste, on en parlera dans la dernière partie. Mais moi, j'ai un regard assez noir sur Requiem for a Dream. Mais
ça passe quand t'as 15 ans, mais après, ouais. C'est vrai que...
Et du coup, j'y suis quand même allé. Et je me suis, même si voilà, moi, je ne suis pas très religieux, etc., etc. Donc du coup, l'épisode de l'Arche de Noé, je connais vaguement. J'ai quand même lu quelques articles qui ont été rédigés par la presse suite aux nombreuses projections. Et elles sont plutôt pas bonnes. Et les hauts responsables de la religion chrétienne ont justement pointé du doigt pour dire que voilà, on était, y a eu des libertés d'adaptation. On est vraiment dans le blockbuster artisanal. On pensait pas voir Aronofsky dans ce domaine-là. Bon, bien que
on voit quasiment pas les animaux, par exemple. Ouais,
on l'a annoncé, comme tu l'as dit, il devait à un moment donné réaliser Robocop. Donc un jour ou l'autre, il allait passer le cap du film à grand budget. Hein,
autre film christique d'ailleurs, Robocop.
C'est vrai. Et j'ai lu 150 millions de dollars.
130 millions.
Ouais. 130 millions de budget. Franchement, attends, il y a une séquence qui est plutôt bien ficelée, je trouve. Hein. C'est le moment où le peuple corrompu prend d'assaut l'arche avant la grande vague. Avant que...
Si je peux juste t'interrompre deux secondes, là-dessus, ce qui m'a beaucoup étonné de la part de Aronofsky, qui est quand même un metteur en scène qui dirige très bien les acteurs et qui n'est pas très connu finalement pour sa mise en scène, là, j'ai trouvé que dans les scènes d'action, c'est vachement lisible, on est vachement imprégné dedans et c'est vachement bien foutu. Quoi.
Ouais, c'est vrai qu'on ne connaissait pas sur ce terrain-là. Mais bon, après, moi, je trouve que ça reste, comme tu l'as dit, un film intimiste. Beaucoup de gros plans, beaucoup de chant contre chant. Un seul décor, c'est-à-dire toute la dernière partie se passe sur l'arche. Et moi, je trouve voilà, qu'on a affaire à voilà, un petit cadeau situé dans une grande boîte. Et je pense que ça ne va pas du tout marcher. Il y a des gens, quand je suis tout à l'heure avec moi, il y avait quand même pas mal de personnes dans la salle. Mais j'ai senti que beaucoup étaient sortis décontenancés parce que, voilà, on regardait les panneaux publicitaires, regardait toute la promo qui est faite autour de films. On annonce ça comme un grand blockbuster, un grand film à effets spéciaux, un grand film à un spectacle. Bon, les images sont très belles. Le film a été tourné en Islande, ça donne envie d'aller en Islande, ça c'est clair.
C'est magnifique. Ouais.
Mais tu as une séquence de 8 minutes. Il y a du film. Et je trouve que finalement, bon, bah voilà, moi qui à la base n'étais pas très attiré, pas ça, être excité par le sujet, c'est pas ce qui va me.
Il y a une séquence qui est quand même, je pense, qui peut aussi expliquer aussi le rejet de la part des chrétiens, qui m'a fait assez quand même halluciner. C'est toute l'histoire pour rassurer ses enfants. Il raconte toute la création justement au milieu du film, Russell Crowe, entre parenthèses. Ultra charismatique, Russell Crowe. Et je suis pas fan de Russell Crowe, mais là, je l'ai trouvé vraiment excellent du début à la fin.
Depuis quelques temps, il a toujours le même rôle. Je veux dire, Robin des Bois, il avait un petit bidon, il avait la barbe.
Non, mais c'est du lâcher, Robin des Bois. Je parle pas du look, je te parle dans le jeu, moi, attention.
Non, mais je trouve qu'il joue pareil.
Ah non, mais dans le, il est vachement charismatique.
Depuis quelques temps.
Et il est vachement imprégné de son rôle, un peu comme Noé. Et bref, tout ça pour dire qu'au milieu du film, il raconte la création à ses enfants. Et.
J'ai trouvé pas mal.
C'est hallucinant. Il te montre la théorie de Darwin, en fait. L'évolution darwiniste dans la Bible. Tu dis, putain, le mec, il a le courage de faire ça au milieu du film, puisqu'on voit le Big Bang, on voit après, comme dans le Terrence Malick. Hein,
les poissons, les oiseaux.
Les singes, etc.
Et ensuite, le singe, et ensuite, en nombre chinoise, l'évolution de l'homme.
Jusqu'à aujourd'hui, d'ailleurs, on voit les soldats de la Seconde Guerre mondiale.
Et on voit un manifestant. Mais on
donne... Et ça, j'ai trouvé ça super, parce que je me suis dit, au début du film, je fais, est-ce qu'il va aller jusqu'à aujourd'hui, en fait? Parce qu'il y a des résonances avec aujourd'hui, en fait. C'est un film qui se parle d'écologie, on est au bord du cataclysme. Il y a quelque chose comme ça, je trouve, de très actuel dans le film. Et il va jusqu'au bout dans cette séquence. Et je me dis, putain, Darwin dans la Bible, quoi. Et je pense que les chrétiens n'ont pas dû aimer du tout cette séquence.
Hein. Ouais, mais bon, après, je peux. Qu'il ait pris le risque de couper l'herbe sur certains sujets et qu'il ait voulu pas évoquer certains tabous. Pourquoi ? Très bien, très bien. Pourquoi pas très bien ? Mais bon, moi, personnellement, ce n'est pas ma tasse de thé. Hein.
Moi,
pas...
je t'avoue, j'étais agréablement surpris.
Il y a de belles images. Il a l'idée de refaire... Enfin, il a l'idée. Enfin, il arrive à imposer sa patte quand même dans ce blockbuster en filmant souvent caméra à l'épaule et en continuant à filmer de dos les acteurs de temps en temps, un peu moins qu'avant quand même. Mais
Et voilà. Beaucoup de gros plans pour isoler justement Noé qui progressivement bascule dans la folie.
Ah quoi. Oui, à la fin, on dirait Barbe Bleue. Hein. C'est, Alors d'ailleurs, je ne sais pas, mais dans la Bible, Noé, il a cette trajectoire-là
Non, je crois qu'il a pris des libertés quand même. Je crois qu'effectivement, il veut tuer les... Je ne suis pas un connaisseur de la Bible, mais bon. Je crois quand même qu'il y a beaucoup de libertés hein, quand même.
D'accord.
Par contre, il revient... ce qui est intéressant, c'est en l'arche. C'est un cube, en fait. C'est un rectangle. Hein,
ouais.
Alors que dans les films, on voit toujours un bateau. Hein. Et là, c'est juste un cube. Et là, par contre, c'est très biblique pour le coup.
D'accord. Okay. Ouais.
Et puis il y a Mathusalem aussi, d'autres personnages un peu mythologiques, bibliques, qui apparaissent dans le film, quoi, comme comment il s'appelle Anthony Hopkins, qui le joue très bien d'ailleurs. Mais,
qui sert à rien.
Mais il fait souvent le même rôle, c'est vrai.
Mais ouais, la
comme comme Paul Aimé dans Alexandre, c'est un peu le même rôle, par exemple.
Ouais, bon.
Non, mais moi, surprise justement, parce que je m'attendais aux gros trucs bibliques, c'est aussi les 10 commandements, ou la Bible de John Huston, tu vois, et pas du tout, c'est juste un drame intimiste à la Aronofsky.
Ouais, enfin bon, entre la Bible de John Huston et les 10 commandements, il y a une différence quand même. Les 10 commandements, c'est du grand spectacle.
Oui.
La Bible de John Huston, c'est pas pareil, même enregistré. Moi, je m'attendais à un film à grand spectacle, un gros blockbuster, avec certes un petit sujet, un petit thème biblique, bien sûr, respecté, puisque tu n'adaptes pas n'importe quelle période de la Bible, mais avec beaucoup plus de spectacle. Et finalement, ça reste intimiste. Il y a 8 minutes, on prévient les auditeurs, hein, il y a vraiment 8 minutes de scène d'action.
Il y a des plans qui sont en dehors du déluge.
Hein. Et sinon,
il y a des plans quand même qui impriment directement dans la rétine. Ouais. La création de la forêt, l'arrivée des animaux, etc., qui sont quand même très très bien cadré, très bien mis en scène.
Mais ça reste quelques minutes sur 2h18. Hein. Et la plupart du temps, c'est des dialogues entre Russell Crowe, ses enfants, voilà, la naissance. Oui. Moi, je suis le créateur, moi, je suis le messager, etc. etc. Et donc, attention, allez-y un peu de recul, parce que vous risquez d'être déçu.
Moi, je t'avoue que les 2h18, je n'ai pas vu le temps passer. Hein.
Bon, bah voilà, on aura au moins deux avis assez tranchés sur ce film. Et on écoute un morceau de musique, on se retrouve ensuite pour parler d'Aronofsky, alors.
Oui.
Style and hoodie.
dernière partie de ce Confluence Cinéma. Et après le film Noé, nous allons donc parler du réalisateur alors.
Oui, Darren Aronofsky, qui commence à s'imposer au fil des années quand même, comme l'un des auteurs les plus appréciés en Europe, américain.
Je ne suis pas sûr. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes comme moi qui ne l'apprécient pas.
Il a remporté beaucoup de prix à Venise, etc.
C'est tout.
Si, comme Black Swan et compagnie. Oh,
ouais, mais
il a été récompensé.
Ouais, mais il y a beaucoup de gens, tout comme moi, qui n'aiment pas Black Swan et qui n'aiment pas The Wrestler. Bah, c'est un auteur qui ne fait pas l'unanimité de partout.
Mais d'ailleurs, moi je l'aime bien, mais je suis d'accord avec toi pour dire qu'il n'a pas fait que des bons films. Amaury évoquait brillamment tout à l'heure, voilà, Requiem for a Dream. Je trouve que c'est un film qui a très mal vieilli et qui est voilà, trop dans l'air du temps et qui est vraiment cheapo. C'est dans la morale assez douteux. Quoi. En tout cas, son premier film, je ne sais pas si tu l'as vu, c'était Pi.
Oui, oui. Bah, il faut préciser d'abord qu'il est né à Brooklyn,
ouais,
à New York, et qu'il a fait des études à Harvard, où il va, il va apprendre les techniques d'effets spéciaux et d'animation. Bon, il va faire beaucoup de courts-métrages au début des années 90. Et en 98, il va réunir 60 000 dollars pour faire Pi, son film de fin d'été.
Un peu comme Nolan avec Following, finalement.
Mmh, voilà,
un peu des parallèles.
C'est un film que j'ai dans ma DVD et que je n'ai toujours pas vu.
Je t'avoue, moi, je l'ai vu, mais pas en partie. Enfin, pas en entier.
Même si c'est le genre de film qui m'attire, tu vois, les films de fin d'études, les films faits avec 3 Francis Sous, noir et blanc.
Ouais, ouais, déjà.
Fait par des auteurs qui, par la suite, ont réussi à s'imposer. En général, c'est le genre de film qui m'intéresse.
Déjà, un parti pris esthétique qui est déjà présent, quand même, filmé en noir et blanc, avec beaucoup de grains, beaucoup de pellicules, avec voilà, des situations réelles, tournées à l'arrache, caméra à l'épaule, etc. Et on tombe directement dans la psyché d'un homme qui est malade, hein, puisque obsédé par le chiffre pi, quoi. Et on retrouve du coup voilà tous ces thèmes principaux, hein, que ce soit le corps, la psyché malade, l'obsession, comme je l'ai dit tout à l'heure, et qui va devenir l'une de ses récurrentes, n'est-ce pas?
Oui, oui, oui.
Et après, son second film, si je ne m'abuse,
c'est Requiem for a Dream.
Requiem for a Dream, j'avais un doute, ouais.
Et donc oui, on en parlait tout à l'heure. Et effectivement, moi, c'est un film que j'ai pas vu depuis longtemps. Que j'ai vu, que j'ai découvert il y a 10 ans quand j'étais au lycée avec les premiers Divix qui circulaient.
Donc alors, il faut savoir quand même que c'est tiré d'une nouvelle de Hubert Selby Jr., qui est, à mon sens, un des plus grands écrivains américains du XXe siècle. Quoi. C'est-à-dire que c'est un vrai petit bijou de roman. Et je vais te laisser présenter le film et tout.
Mais oh, non, je... bon,
mais le roman, justement, moi qui ne le connais pas, c'est moins moraliste que le...
Ah ouais, c'est moins moraliste. Et puis surtout, c'est... voilà, encore une fois, c'est ce génie américain, comme on parle souvent ici, des Jack London, des Elroy, des grands romanciers américains, où voilà, c'est aussi une vision de l'Amérique et de la société en général qui ressort. Or, dans le film, on ne voit pas du tout ça. Dans le film, je veux dire, on est ciblé sur un truc. Enfin, c'est comme si, voilà, il a pris un super matériel et il a extrait seulement les choses voilà, qui étaient un petit peu tapageuses. Quoi.
Parce que le film est très court, il fait
une heure. J'ai un peu l'impression d'un article du Monde qu'on aurait pris et qu'on aurait fait une brève d'envoi.
Ouais,
quoi.
On sent que c'est le film choc qui est fait juste pour choquer et qui est un peu stérile. Moi, je le disais à Hakim, voilà, c'est un film que je trouve qui a mal vieilli et qui est très ancré dans son temps et voilà, avec trop d'effets de mise en scène. Alors certes, on peut faire, je le salue s'il nous écoute, comme Fabrice Calzettoni, présenter le film à ses enfants à 14 ans pour montrer les ravages de la drogue, mais c'est le seul, je trouve.
C'était pas uniquement pour montrer les ravages de la drogue, je pense. Bon,
c'est il me l'avait dit.
Ah ouais, c'est pour ça.
Mais... Tu parles de quoi? De Jennifer Connelly?
Oui, voilà.
Ouais, Jennifer Connelly, qui est voilà, l'une des actrices.
Avec Jared Leto également. Et l'autre acteur, le black, qui va ensuite jouer dans
Marlon Wayans, ouais.
Mais moi, c'est un film que j'ai pas vu depuis quelques temps, que j'ai en DVD. Là, vous me donnez envie de le revoir. Mais moi, j'en garde le souvenir d'un film à spirale, avec une descente aux enfers pour chacun des personnages inéluctable et traumatisante, avec ce thème musical qui revient constamment.
Qu'on a entendu dans toutes les bandes annonces depuis 10 ans.
Bah oui, hein, bah Les Deux Tours,
voilà, par exemple.
Et moi, je regarde un très bon film esthétiquement. Alors après, au niveau de la morale...
Non, après, moi, je trouve que c'est pas, tout n'est pas acheté au niveau de l'image, même de la direction d'acteur. Enfin, je veux dire, il y a
Hilary Swank est très bon dedans.
Qui sont vraiment pas mal. Moi, c'est vraiment sur le propos général, en fait, de comment on part de quelque chose d'assez riche pour en faire un truc hyper ringard et surtout très moralisateur. Quoi.
Bon, après, il va faire The Fountain.
Ouais, qui a eu des déboires, pas mal de, un peu comme Noé. Le film devait se faire avec Brad Pitt à la base. Il est parti au milieu de la pré-production et du coup le budget est entamé, je crois, de moitié. Enfin, c'est vraiment un film très malade. Je l'aime beaucoup, moi. Il a beaucoup de défauts, le film, un peu comme Noé. Mais il y a quelque chose qui est quand même là. Voilà, cette histoire d'amour intemporel sur trois époques, si je ne m'abuse. Il y a l'époque des conquistadors, notre époque et le futur. Avec Hugh Jackman qui est un peu comme Dracula, qui veut faire
qui cherche l'amour éternel. Voilà. Enfin, qui est éternel et qui retrouve l'amour qu'il a perdu.
Voilà, une femme, sa femme qui est malade d'un cancer, je crois, si je me rappelle bien dans le film. Et avec des symboles un peu lourds. Voilà, l'arbre de la vie qu'on retrouve un peu comme dans
Tree of Life. Je vais te dire ça, mais c'est un peu la marque de fabrique d'Aronofsky, les symboles lourds. Hein.
Mais moi, ça me dérange pas. Ouais. Mais voilà, c'est un film qui a une esthétique assez particulière quand même. On pourrait dire un peu feng shui, je sais pas si on pourrait le traduire par l'image, mais tu vois ce que je veux dire, assez un peu asiatique, un peu aussi africain. Enfin, il y a un mélange de plein de styles différents.
Exotique.
Ouais, voilà, exotique, on pourrait dire. À la fin, ça se termine un peu comme 2001 quand même, voilà, avec l'humanité qui se refait encore et encore. Qui est l'un de ses thèmes aussi de prédilection.
Ben, moi, je l'ai vu à sa sortie en 2006. Depuis, je ne l'ai pas revu et je garde un très bon souvenir d'utilisation du montage, vu qu'il y a beaucoup d'allers-retours entre différentes époques, des éléments déclencheurs qui interviennent à l'époque des conquistadors et qui se répercutent sur la période du futur. Ouais. Je trouvais qu'au niveau du montage, il y avait eu un très, très bon travail. Et puis bon, comme tu l'as dit, il y a eu beaucoup de déboires en pré-production, des départs, des arrivées, etc. etc. Et je trouve qu'au final, c'est le souvenir que j'ai. Hein. À l'époque, je trouvais que malgré ces déboires, le film s'en sortait bien, il tenait la route.
Oui, oui.
Donc voilà.
Après, un peu charcuté au montage aussi, le film, si je ne m'abuse.
Ah bon ?
Oui.
Bon,
en tout cas, après, juste avant de parler de son autre film, après, qui est comme peut-être son plus connu. Hein,
Bah oui, c'est vrai qu'il me sont plus connus.
The Wrestler, quand même, il s'impose progressivement avec le temps. À l'époque, il avait un projet que je fantasme. J'adore les films, les projets avortés. Il voulait faire l'adaptation de The Dark Knight Returns de Frank Miller. Donc, Batman qui est vieux, qui est... Tu connais pas cette...
T'as dit quel...
The Dark Knight Returns.
Ah,
Batman s'est retiré.
Non, mais il y a déjà dans The Dark Knight, il est vieux, déjà.
Oui, mais là pour le coup, là, c'est bien plus tard. Ouais. Je crois qu'il se passe 30 ans avant que...
Et c'est Clint Eastwood qui devait jouer Bruce Wayne.
Et il avait ce projet-là, donc voilà, faire jouer Eastwood le rôle de Batman. Il voulait tourner à Tokyo pour faire croire que c'est en fait New York, donc Gotham. Et il avait l'idée de faire un mélange entre Taxi Driver... French Connection et le Death Wish de Bronson.
Mais avec Eastwood, ça n'aurait pas marché.
Ah bah putain, quand tu vois la BD, c'est son sosie. Hein.
Le style
de Frank Miller, etc. Ah,
certes, mais tu crois vraiment que Eastwood peut faire des vols planés?
Il était chaud. Enfin, attends, c'est il y a 10 ans, ça. Hein.
Bah même.
Et
il y a 70 ans, quand même, il y a 10 ans. Hein.
Et donc, c'est devait être produit par la Warner. Et voilà, c'est encore capoté par rapport au sujet hardcore, entre guillemets, très justice dans la ville, etc. Qui a peu déplu. Et
Un petit réac de droite, Aronofsky?
Non, je pense que c'est plus complexe que ça. Il aime bien ces sujets-là un peu taquins. Mais
D'ailleurs, il devait aussi bosser sur un remake de Robocop de Paul Verhoeven.
Qui ne s'est pas fait aussi, du coup.
Pour quelle raison, tu le sais, toi qui aimes bien les projets.
C'est les fameux. La fameuse phrase, tu sais, différent artistique.
Non, c'était pas plutôt la période, vu que le film doit être produit par MGM, c'est pas la période où justement la MGM a eu des gros problèmes financiers. Ils ont failli mettre la clé sur la porte.
Mais je crois que
le projet. Il y avait un James Bond qui a failli capoter, justement.
Oui, ils l'ont retardé, mais je crois que le projet Robocop était quand même. Ils le continuaient quand même. Hein. Mm-hmm. C'était un projet qui était un peu à part. Et je crois que, voilà, différence, voilà. Tu connais le propos de Robocop quand même. Ouais. Je pense qu'il devait aller un peu trop loin.
Et alors après, The Wrestler, hein, qui va gagner un Lion d'Or.
La résurrection de Mickey Rourke.
Oui, et je pense très sincèrement que... Parce que vous avez beau dire ce que vous voulez, vous les adorateurs de ce film, mais pour moi, au niveau du pitch, au niveau du scénario, c'est vu et revu. Hein, c'est ni plus ni moins que le pitch de Rocky 2. Hein, un champion sur le déclin qui, par amour de son sport et de sa passion, va devoir aller au-delà de sa propre santé. Parce que dans l'histoire, Mickey Rourke a des problèmes cardiaques, je crois. Et que s'il continue à faire du catch, il peut en mourir. Et donc, du coup, tu as tout le côté rédemption qui, pour moi, dans ce film-là, est très lourdingue.
Mais qui ne sera jamais là, pour le coup, puisqu'il va tout perdre, quand même, Mickey Rourke, dans le film. Oui, il va perdre sa petite copine, sa fille, etc.
Non, à la fin...
Tout ce qui lui reste, c'est le catch.
Non, mais à la fin, il retrouve un petit peu l'amour de sa fille, quand même.
À la fin... Non, elle repart à la fin. Si.
Sur le long terme. Enfin, bon.
Et tout ce qui lui reste, c'est le catch.
Et puis moi, je trouvais que d'un point de vue mise en scène, cette mise en scène un peu à la Dardenne, caméra à l'épaule, on filme toujours de dos Rourke. C'est la résurrection de Rourke, tu ne vas pas faire plus de gros plans, tu continues tout le temps à le filmer de dos. Ah bon, il y avait parti pris la mise en scène qui me dérange un petit peu. Et je pense que là, on aime ce film, beaucoup aiment ce film-là, parce que c'est la résurrection de Mickey Rourke. Le jour de, où Nicolas Cage fait un très bon film, tout le monde dirait que c'est extraordinaire, alors que même si le scénario est bidon.
Et Nicolas Cage devait jouer le rôle à la base de The Wrestler. Ouais. Mais en tout cas, ce qui est intéressant... Voilà,
les 30 premières minutes sont intéressantes, parce qu'il y a un petit côté documentaire sur le milieu du catch qui est vachement intéressant.
Ce qui est intéressant dans The Wrestler, voilà, c'est Mickey Rourke, il ne faut pas se voiler à la face.
Il n'y aurait pas eu Mickey Rourke, le film aurait été, n'aurait pas été...
À Venise, il a été récompensé, si je ne m'abuse, du Lion d'Or. Ils l'ont dit, hein, juste pour la récompense, pour la performance de Mickey Rourke. Ils ne pouvaient pas le donner, je crois, pour des raisons, par rapport à un autre acteur, le prix du meilleur acteur. Mmh. Donc, ils ont décidé de le donner carrément Lion d'Argent ou Lion d'Or,
Marc ? Lion d'Or.
Donc,
Aronofsky n'est pas dans le coup.
Et voilà, Mickey Rourke, c'est comme Stallone à Croquis, c'est sa vie, quoi. C'est un homme qui est tout perdu, son visage est ravagé. Mmh. Et c'est un homme qui dit, voilà, je suis encore vivant, j'ai le droit de vivre, je suis comme je suis.
C'est un peu trop tire-larme.
Moi, je trouve pas. Moi, j'adore Mickey Rourke quand même.
Bah voilà, exactement. Ouais. Voilà. Il n'y aurait pas eu Mickey Rourke, le film ne serait pas pareil.
Mais ça, bah, évidemment, c'est un film qui est dédié à Mickey Rourke du début à la fin. Mmh. Et pareil, il va faire la même chose finalement avec Black Swan, qui est un peu le plus ou moins le même film, mais mieux de la danse. Mmh. Avec Natalie Portman à la place du gros baroudeur de combien 120 kilos de Mickey Rourke. Et voilà, c'est un film d'horreur d'auteur, on pourrait dire, Black Swan.
Et comment elle s'appelle déjà l'actrice qui joue avec Natalie Portman ?
Mila Kunis.
Et ben, pour moi, le seul point positif du film qui m'a beaucoup saoulé, c'est Mila Kunis qu'on découvre.
Parce que t'es un petit pervers.
Non, c'est pas ça. C'est que moi, j'aime beaucoup Nathalie Portman, mais Nathalie Portman, dans 90% des films qu'elle fait, elle chiale. On l'utilise pour interpréter la fille qui chiale tout le temps. Et dans ce film-là, où voilà, on comprend très rapidement, je ne spoil rien du tout, on comprend qu'elle est schizophrène. D'ailleurs, ça donne
c'est le signe Garou.
Ça donne des séquences, je trouve, ridicules, des séquences entre elle et sa mère. Assez ridicule.
Mais là,
je trouve.
C'est voulu. C'est voulu.
Non, je
attends,
sais pas.
Si, c'est voulu.
C'est trop facile de dire ça que c'est voulu.
Bah, si.
Et,
je l'ai vu en salle à l'époque, tout le monde rigolait de bon cœur. Hein.
Ouais, bah non, je pense pas. Je pense pas que c'est. Non.
Mais si.
Non. Ouais. Et moi, je trouve qu'il n'y a aucune surprise. On a vu la téléportation un milliard de fois dans ce genre de registre. Et qui plus est, je trouve que la mise en scène d'Aronofsky, également caméra à l'épaule, et cette façon de charcuter ces scènes de ballet qui mériteraient d'être tournées en plan large, un peu à la Powell, je trouve que ces parties pré-artistiques plombent littéralement le film. Alors, c'est une mode de vénérer Aronofsky parce que c'est soi-disant un auteur inéductable. Pour moi, Black Swan, ça a été vraiment le film le plus lourdingue de l'année. Hein,
mais qu'on aime ou pas Aronofsky, c'est même pas un débat. On peut au moins lui reconnaître, contrairement à tant d'auteurs américains, au moins il a un style, un vrai style visuel. Qu'on l'apprécie ou pas, il
dans
a un
Noé...
vrai style. Ben justement, là, ce qui est intéressant, c'est qu'il se frotte pour la première fois à un blockbuster. Donc forcément, c'est un film beaucoup plus familial et donc dans la mise en scène, plus didactique. Mais on retrouve, voilà, comme tu as dit, des petits trucs par-ci, par-là, dans les thèmes, dans la mise en scène, le côté de dos, les côtés gros plans sur Russell Crowe.
C'est esthétique, quoi. Enfin, moi, voilà. Personnellement, j'ai vu que Requiem et Black Swan là, dans tous les films dont vous parlez depuis tout à l'heure. Mais c'est vrai qu'il y a voilà, moi, je le reconnaîtrais ça. Après, moi, c'est pareil. Hein, Black Swan, c'est comme... Requiem, c'est vraiment pas un film que j'ai apprécié non plus, mais c'est vrai que voilà, moi la seule chose que je retiens de lui pour l'instant, c'est qu'il y a un certain regard, il y a un regard de cinéaste.
Voilà.
Après, moi, au niveau du propos, de sa sensibilité, de politiquement ce qu'il dégage, de sa vision et de même de sa direction d'acteur, ouais, je suis pas, c'est vraiment pas quelqu'un qui me touche, quoi.
Mais... Oui, mais je pense pas que ce soit quelqu'un qui est à droite. Hein, je veux dire, quand tu prends The Wrestler, c'est comme juste le parcours d'un homme.
Non, mais après on s'en fout, c'est pas droite gauche. Quoi, tu vois, c'est une histoire de sensibilité en fait. Ce qui dégage, c'est ce qu'à chaque fois, je te dis, j'ai vu que deux choses de lui, mais à chaque fois, ce que j'ai vu, ça me parlait pas du tout en fait. Je me disais, bah, bonhomme, moi je vois pas la même chose que toi en fait dans la
d'accord.
vie.
D'accord,
c'est plus à ce niveau-là. Après, je le reconnais un certain talent. Quoi.
Ouais, ouais. Non, mais voilà, c'est ce que je disais, quoi. Au moins, il a un style, ce qui est pas le cas de beaucoup d'auteurs. Et en deux plans, c'est que c'est lui quand même.
Mais Amaury est là pour confirmer ce que je dis depuis le début, c'est qu'Aronofsky est un auteur controversé. Enfin, du moins, peut-être pas controversé dans le sens auquel on peut imaginer, mais que c'est pas un auteur qui fait l'unanimité.
Mais voilà. J'ai envie de dire, tant mieux, c'est la marque des grands, ça.
Ouais, oh, faut arrêter. Hein.
Bah oui,
tout le monde aime Kubrick. Hein, voilà.
Pas tout le monde, on en connaissait un.
On va bientôt... se quitter,
oui.
D'autres choses à ajouter.
Oui, un petit mot sur la petite programmation de l'Institut Lumière qui fait une petite programmation Je t'aime, je te filme.
Hakim va se faire engager à l'Institut Lumière bientôt.
Il connaît les programmes par cœur.
J'y travaille. Vendredi 11 avril, grande date. Je vous dirai pourquoi plus tard, est projeté à 14h30 le dernier film de François Truffaut, La femme d'à côté, le deuxième film qu'il fait avec Fanny Ardant, qui fut sa femme. Et c'est typiquement le néo-polar, et réalisé dans les 80 en noir et blanc, alors qu'à cette époque-là, on ne tournait plus de films en noir et blanc, tourné dans la ville de Hyères, sur la Côte d'Azur, juste avant que cette ville se modernise. Et c'est un très beau film noir avec Fanny Ardant et Jean-Louis Trintignant, le dernier film de François Truffaut, entièrement pensé comme une série noire. Et c'est à voir.
Et qu'est-ce qu'il y a le 11 avril ?
C'est mon anniversaire.
Ah,
génial.
Donc j'irai voir un Truffaut.
Et moi, tout ce que j'aimerais dire pour la fin, c'est n'allez pas voir la merde de la merde. Voilà. Je suis vraiment remonté contre ce film.
Je pense que les auditeurs de Brume l'auront compris. Écoutez, messieurs, merci beaucoup pour vos analyses toujours perspicaces.
Elle était fine, celle-là, t'as vu.
Le cinéma contemporain. Et puis, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures cinéma sur Brume.